Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre magazine avec aujourd'hui, eh bien, nous recevons une invitée qui écrit des livres. Ouais, on me les présente tous devant, mais alors il y en a un petit paquet. Et sa spécialité à cette invitée, ce sont les livres historiques d'or, de sang et de soie, l'ADN d'un dieu. Ça, c'est les livres que nous sommes en train de me montrer. La mémoire froissée et Brunhilda, première reine de France. Vous voyez, même si je ne la connaissais même pas, bah, je pense qu'on va en apprendre beaucoup d'ailleurs dans ce magazine. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Et donc, je vais enfin vous la présenter quand même. Je ne vous ai pas dit son nom. C'est Christine Machureau qui est avec nous. Bonjour, Christine.
Bonjour.
Alors, Christine, historienne ou pas ? Études d'histoire ou pas ?
Bien évidemment. Des études personnelles.
Personnelles.
Voilà, mais très approfondies sur le Moyen-Âge.
Pourquoi le Moyen-Âge, d'ailleurs, entre parenthèses ?
Eh bien, je me le demande aussi. Parce qu'en définitive, le Moyen-Âge, c'est une période historique qui est adorée des Français. Et je ne suis pas différente. J'ai adoré le Moyen-Âge.
Quand vous étiez ado ?
Non, quand j'étais encore enfant. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a trimballée sur tous les champs de bataille d'Austrasie. Et l'Austrasie, justement, on parle de Brunhilda, qui est mon dernier... C'est pas un roman, c'est une biographie romancée. C'était une princesse wisigothe, et l'Austrasie, ça représente la Champagne, un peu de la Bourgogne, beaucoup de la Belgique, ça va presque jusque Paris, et ça a été vraiment le berceau de ce qu'on appelle la France aujourd'hui. Et elle et son mari, Sigebert, ont vraiment posé les fondements du royaume de France.
Mais Brunhilda, elle n'est pas connue finalement, on n'en parle pas.
Alors, si. Certains ont peut-être pu entendre parler de Brunehaut. Et Brunehaut, c'est Brunhilda ou Brunechildis. Mais Brunehaut est un terme du XIIIe siècle. Et il est évident qu'elle était morte depuis pas mal d'années.
Oui, parce qu'elle, c'était au Ve siècle. Donc.
Voilà.
D'accord.
Donc, j'ai cherché, moi, le nom par lequel elle était appelée à l'époque. Et Brunhilda m'a semblé tout à fait plausible. Voilà. Mais Brunehaut, pour moi, ça ne représente rien. C'est un terme qui a été inventé au XIIIe siècle. Donc, ça n'avait rien d'historique pour moi.
Mais qu'est-ce qui vous a intéressé chez ce personnage alors que à l'école on retiendra plus forcément les Louis, les Charles et autres empereurs d'ailleurs aussi entre parenthèses. Et là Brunhilda, on dit bien, on prononce bien le E, voilà. Brunhilda, reine. Bah, personnellement, je ne m'en souviens pas comment on est parlé moi à l'école par exemple.
Voilà. Et on vous a parlé des Mérovingiens.
Oui.
Voilà. Eh bien, c'est la première reine mérovingienne. Mais au départ, elle n'était pas mérovingienne. C'était une princesse wisigothe qui était la fille du roi, d'un roi wisigoth, et qui était basée à Tolède. Et Sigebert a eu l'idée, pour ancrer son royaume dans la légitimité, d'épouser une princesse, mais une vraie princesse. Parce que jusque-là, les Mérovingiens se contentaient souvent d'une esclave, d'une fille ramassée à droite, à gauche, etc. Et ça ne faisait pas très sérieux dans le tableau. Donc lui, là, il s'est dit, je vais épouser une princesse. Il a donc envoyé ses émissaires à Tolède et il a négocié. Et comme il était assez riche, le père de Brunhilda s'est dit, pourquoi pas. Voilà.
Mais dans ce livre,
oui.
Si vous le deviez le résumer, vous racontez quoi en fait sur Brunhilda ?
Ok, bonne
question. Et après, question. Il y aura une autre question qui va être un peu plus
vicieuse,
bien sûr.
Alors Brunhilda, pourquoi ? D'abord parce que j'aime beaucoup les personnages féminins. Les personnages féminins qui sont des héros. Et elle a traversé l'histoire un peu comme une traînée de feu. 50 ans à régner. Parmi les hommes, à l'époque mérovingienne, ça représente pas mal de courage, pas mal d'entêtement. Alors, pourquoi elle a été amenée à régner alors qu'elle était justement là pour faire des enfants ? C'est parce que son mari, Sigebert a été assassiné par son frère Childebert.
Ça, ce sont déjà des prénoms, des noms qui commencent à parler.
Voilà. Ouais. Et elle a repris le royaume en main, et elle l'a repris d'une façon absolument fantastique. Elle a donc régné 50 ans, ce qui fait d'elle une vieillarde extraordinaire parmi les Mérovingiens qui mouraient à 40 ou 50 ans. Voilà.
Mais c'est sa vie alors en fait, ou c'est juste une partie de sa vie ?
Non. C'est toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à sa mort, qui a été là, tout le monde, de Brunehilda, tout le monde se rappelle la mort parce que ça a été épouvantable, mais on ne se rappelle que de sa mort. Mais avant, il y a eu 60 ans de vie, et puis 70 ans de vie et 50 ans de règne.
Pourquoi épouvantable sa mort ?
Parce que ça a été torture sur torture, parce que ça a été humiliation sur humiliation, parce que ça a été douleur sur douleur, parce que ça a été la vengeance des hommes face à la domination d'une femme.
Eh oui. Je ne sais pas pourquoi je le sentais comme ça à la base, ça c'est clair. Et la question un peu plus vicieuse, Christine Machureau, le risque quand on fait un livre, un roman historique, c'est d'avoir les historiens sur le dos.
Ça m'est jamais arrivé.
Donc ça veut dire que c'est ce que vous dites, c'est argumenté, sinon ils vous seraient tombés dessus.
Tout à fait.
Comment on fait des recherches pour Brunehilda ? Où est-ce qu'on les trouve, ces documents, tout ce que...
Où est-ce qu'on les trouve ?
Oui.
Alors, c'est très simple.
Où c'est qu'on les trouve, comme dirait...
Où c'est qu'on les trouve ? Vous avez un site qui s'appelle Gallica,
ouais.
Qui est l'émanation pure et dure de la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est un petit peu difficile au départ de se servir de Gallica, parce que c'est un peu complexe. Il pourrait d'ailleurs simplifier les choses, mais bon, c'est un peu complexe. On est amené à lire en numérique, parce qu'ils ont numérisé énormément de volumes. Ça, ils ont fait des efforts extraordinaires de ce côté-là. Et on est amené à lire même des choses qui ne sont pas très utiles, mais qui ont un titre à guicheur. Ou alors, sur un bouquin qui fait 200, 300, 400 pages, lire 3 pages, parce que... Le sujet que l'on traite est traité en 3 pages dans ce livre-là. Donc, c'est assez long, mais c'est passionnant. À la limite, c'est la partie que je préfère dans
vous faites comment, ça veut dire
dans mon métier de romancière.
Quand vous prenez ces documents, ces livres, vous prenez des notes à côté, vous avez un cahier, parce que vous savez déjà, par exemple, pour le livre de Brunehilda, puisque c'est vraiment votre personnage préféré, si je crois comprendre, vous aviez votre livre, votre cahier, vous saviez que vous allez écrire un livre là-dessus, donc... Tout ce que vous pouviez, vous prenez des notes sur un cahier, sur un ordinateur.
Non, alors pas sur un cahier, ni sur une ardoise, ni sur une pierre gravée. Simplement à l'ordinateur.
Non, parce que le cahier, des fois, ça peut représenter, c'est tellement... on retient mieux quand on écrit avec
le
stylo, par
exemple. Je ne dis pas que je ne prends pas de notes de temps en temps sur du papier. Mais bon, je travaille beaucoup à l'ordinateur, comme beaucoup de romanciers de ma génération.
Mais pour prendre des notes, tout ça pour compiler les dizaines, peut-être vingtaines de bouquins que vous pouvez lire
tout
sur le
fait.
Sujet.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a eu des moments, des détails de son histoire que vous avez, que vous n'avez pas voulu relater parce que ça ne correspondait pas ou c'était un peu, ça pouvait porter à confusion ou...
Non, je ne me limite pas.
D'accord. Ah oui, directement. Donc, et quand vous écrivez ça, c'est chez vous en Dordogne ou alors vous vous isolez dans un endroit peinard, tranquille, où on ne peut pas vous déranger puisque de toute façon il faut travailler sur l'histoire.
Alors l'endroit peinard, tranquille, où on ne peut pas me déranger, c'est chez moi.
C'est chez vous. Et là,
absolument.
Vous coupez le téléphone vous...
Non, pas du tout. Mes amis savent que bon, le matin je suis assez disponible. Et puis l'après-midi, jusqu'à 5 heures, je travaille. Mais après 5 heures, on est autorisé à m'appeler.
D'accord. Donc, on sait si on vous appelle avant 5 heures et que ça ne répond pas, c'est normal.
Voilà, tout simplement.
Très bien. Vous connaissez un petit peu l'Uzèche ?
Un petit peu.
Puisque là, nous sommes ici, on fait cette émission depuis le musée de Armand Viré, de l'Uzèche. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'Uzèche ? Il y a plein d'histoires, là, c'est génial. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ?
Je vois où vous voulez en venir.
Il y, n'y a pas Bruno Hilda, mais bon, il y a un oppidum, il y a... Tiens, bah si, on parlait justement avec quelqu'un qui vous connaît bien, Christian Marin, qui connaît très bien l'oppidum aussi. Bonjour Christian.
Voilà.
Bonjour Yannick.
Tu connais très bien Christine Machureau, tu as lu ses livres ?
Je crois qu'on se connaît depuis des siècles.
Des siècles à ce point-là ?
Oui, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était une évidence.
Pourquoi ?
On avait énormément de choses à se raconter, à se dire. Et puis... c'est pas trahir un secret que de dire on a fait plus que connaissance.
D'accord.
Voilà, aujourd'hui.
Mais les livres historiques comme là, toi, c'est le genre de livre que tu lis.
Je suis en train de lire Bruno Hilda.
Oh, ah, c'est toi le marque-page
là
que tu
m'as. C'est moi le marque-page, c'est moi. Voilà, donc il me reste une cinquantaine de pages à lire. Je suis pas un grand lecteur de romans. Je t'ai déjà dit que mon métier était loin de la culture, puisque j'étais directeur de supermarché et que j'ai découvert l'oppidum. Et depuis.
T'es presque archéologue maintenant.
Ça serait usurper un titre que je n'ai pas, non. Mais toutes mes lectures sont sur les oppidas, c'est les gallo-romains, c'est les gaulois, c'est les druides. Voilà, c'est. Et je n'étais pas très roman. Et là, j'ai redécouvert le plaisir de la lecture, parce que ce sont des romans historiques, donc déjà l'histoire m'intéresse. Le Moyen-Âge, Luzèche est une ville moyenâgeuse, donc il y a un intérêt certain pour ce côté-là. Et puis je trouve que c'est bien écrit, c'est très descriptif. Je trouve que les situations, on est dedans, de par la façon d'écrire.
Est-ce que tu es d'accord par la lecture, déjà, que tu as eue de ce roman, sachant qu'il t'en reste encore un petit peu à lire, hein. Est-ce que tu es d'accord, finalement, si on... Avec Christine Machureau, moi j'ai l'impression que dans ce livre, elle est en train de dire qu'on ne s'est jamais vraiment intéressé à cette reine-là au final. Et qu'elle aurait tellement de choses à nous dire, qu'elle nous dit d'ailleurs dans son roman.
Elle nous dit, je crois qu'elle a dit l'essentiel, c'est une femme au milieu d'un royaume d'hommes. Je crois qu'à cette
époque, les femmes, effectivement,
les femmes, donc on
gouvernait pas beaucoup.
On connaîtrait peu de noms féminins, même nos reines du 17e, du 18e.
Elles n'ont pas duré longtemps.
Elles n'ont pas duré longtemps, à part Marie-Antoinette, citer le nom de la femme de Louis XIV ou de Louis XV. Donc on est plutôt quand même dans des royaumes masculins, et là on a l'occurrence, on a une princesse effectivement qui va devenir reine et qui va trouver sa place, qui va partir au combat quand son mari sera pas là. Elle va attaquer une ville, si je me souviens bien, de son beau-frère. Du frère de Sigebert, Childéric, si je me souviens.
Childéric,
c'est bien ça. Donc elle y va, elle prend une troupe, et puis elle, comme lui a fait une incursion dans le royaume de son mari, et bien comme elle, c'est la reine, elle prend sa troupe et elle va et elle contre-attaque.
Brunhilda, d'autres personnages historiques, et toi, Christian, l'archéologie. Je sais pas, j'imagine des soirées chez...
Elles sont pas tristes.
Elles sont pas tristes, ça doit être des discussions d'histoire et tout, ça doit être...
Oui, mais pas
parler d'autres choses un peu.
Oui, mais pas que.
D'actualité.
D'actualité, oui, parce que bon.
Vous aimez jouer aux cartes. Qu'est-ce que vous préférez faire, entre parenthèses, ailleurs, autrement qu'écrire, Christine ?
Peindre ?
Ah bah. Pas décidément. Vous êtes vraiment une artiste complète, alors.
Complète peut-être pas, mais artiste, oui, sûrement.
Et donc, est-ce que, par exemple, il vous a appris des choses sur l'usage, Christian?
Bien sûr, il m'a tout appris sur l'usage. Je ne connaissais pas.
Et vous lui avez... Est-ce que, alors, je ne vais pas parler à sa place, Christian. Donc, et toi, elle t'a appris beaucoup de choses sur Bruno Hilda.
Tout.
Tout, voilà. Donc oui, en fait, c'est de la complémentarité, c'est drôle.
Comme toi, Bruno Hilda, connaissait pas. Hein.
Mais il y a plein d'autres personnages comme ça qui sont méconnus et que vous traitez dans vos romans, Christine Machureau.
Alors de toute façon, tous mes romans s'inscrivent dans une trame historique, véridique, vérifiée, commentée, etc. Donc vous trouverez effectivement d'autres personnages. Dans le précédent qui s'appelle Le Roi d'Angoisse, par exemple, c'est un roman, un pur roman, mais on voit comment s'est nouée la haine qui a uni, si la haine peut unir, un père et son fils, c'est-à-dire Charles VII et le futur Louis XI, et les raisons pour lesquelles ils se sont haïs, à un tel point que lorsque Charles VII est mort, Louis XI, bien sûr, n'a pas participé ni à l'enterrement, ni aux cérémonies, ni à rien de tout ça. Mais lorsque ses admirateurs ont voulu, les admirateurs de Louis XI, quand on devient le roi, on n'a que des admirateurs, présenter leurs condoléances, il les a fait fouetter. Voilà, donc c'était vraiment... véritablement une haine. Donc j'explique un petit peu à travers un roman, puisque c'est l'histoire du barbier de Louis XI, enfin du futur Louis XI, du dauphin Louis, qui va nous amener à connaître un petit peu les tendances politiques de Louis XI qui ont été différentes de celles de Charles VII. Et Charles VII a été un excellent roi, et Louis XI aussi.
Et des fois, les histoires sont tellement longues que vous en faites une saga.
Absolument.
Et alors, une saga en 5 volumes, sur qui d'ailleurs ?
Alors, sur une guérisseuse.
Ah là, on est... d'accord. Là, on change en plus complètement
de thème. On change. Sinon, si on ne change pas, moi je m'ennuie. Hein.
Ouais,
je n'écris pas pour m'ennuyer, ni pour ennuyer le lecteur.
Surtout.
Voilà. Donc c'est l'histoire d'une guérisseuse. Elle a perdu sa mère grâce à l'Inquisition, si on peut dire. Elle a perdu son père qui est mort de chagrin. Il ne lui restait que l'atelier de poterie de son père qu'elle a vendu, et elle s'est installée herboriste. Elle va traverser la France d'ouest en est pendant la guerre de Cent Ans. Et c'était pas de la tarte, si on peut dire. Donc on a un panorama de ce que les Anglais ont pu nous faire comme mal. On a un panorama de la société moyenâgeuse. On a un panorama des connaissances médicales de ce temps-là, c'est-à-dire 14e, 15e siècle. On a aussi un panorama de ce que pouvait être l'amour dans ce temps-là, et sujet qui m'intéresse particulièrement, panorama de ce qu'étaient les alchimistes, car elle va épouser à Troyes, donc elle part de Touraine, elle se retrouve à Troyes, qui a été une ville pivot dans la guerre de Cent Ans. Je pourrais expliquer un petit peu pourquoi, mais ça va nous mener très loin.
Faut lire le livre.
Ah ben oui, tu as tant qu'à faire. Mais elle va épouser un libraire qui est veuf, qui n'a pas d'enfant, et qui a installé un atelier d'alchimie sous sa boutique. Et ils vont tous les deux, bien sûr, s'intéresser à l'alchimie et démontrer comment l'alchimie a pu créer carrément les ancêtres des médicaments, par les huiles essentielles, etc. Donc l'alchimie, c'était pas seulement la recherche de l'or. D'ailleurs, était-ce la recherche de l'or?
C'est peut-être le compte que l'on en fait, alors.
Comment?
C'est peut-être le compte que l'on s'en fait de l'alchimie. Légende urbaine.
Voilà. Et bon, dans un prochain roman, je vais expliquer que l'alchimie, c'est peut-être pas exactement ce qu'on attendait. Mais dans ce roman-là, on rencontre Nicolas Flamel, qui était un être absolument détestable. Enfin, moi, j'en fais un être détestable parce que bon, il m'a jamais plu, ce bonhomme. Donc,
là, quand vous avez quelqu'un dans le pif,
clac, je vais régler son compte. Bon, c'est une occasion, mais c'est surtout l'histoire d'une famille parce que ils vont avoir un fils qui ne va pas vouloir reprendre la librairie de son père, alors que son père vraiment comptait dessus. Et il va partir en Italie, il va apprendre là le dessin d'architecture, il va créer de très belles choses, et puis il va se marier avec une Italienne, puis il va partir à Bruges pour construire des choses à Bruges, et puis là il va perdre sa femme qui le trompe éhontément, et il revient à Troyes dans le berceau de sa famille, Et puis là, il revient à Troyes avec sa fille. Et sa fille et Anne, donc la grand-mère, vont parcourir la France, cette fois-ci de Troyes en Espagne, jusqu'en Espagne. Et d'Espagne, l'histoire se poursuit et on va traverser l'Afrique au Moyen-Âge.
Eh bien, il n'y a que de chemin parcouru dans cette histoire.
Que de chemin parcouru.
Et historique.
Non, là on est dans la partie fiction.
Mais basé, j'imagine.
Mais toujours basé sur des recherches. Et j'ai eu beaucoup de difficultés parce que le Moyen-Âge en Afrique est très peu traité.
C'est vrai, c'est pas faux.
Et pourtant, c'était une période extrêmement riche. Riche en or, surtout. Des tonnes et des tonnes d'or.
Vous habitez la Dordogne, vous êtes ici dans le Lot. Quand on sait le nombre de châteaux qu'il y a en Dordogne, quand on sait le nombre de choses, de monuments historiques, et notamment à Cahors, par exemple, qui est une ville médiévale par excellence,
absolument,
entre parenthèses, vous devez être contente.
Ah, mais très contente. D'ailleurs, j'ai dans quel livre je t'ai dit que j'avais traité une scène à Cahors.
Ah, mais dans Brunelilda, tu en parles
Non. Pas possible, c'est pas la même époque.
Tu parles pas de médiéval, mais tu parles du Cahors de cette époque-là.
Oui, c'est possible. Vous savez, au bout de 18 romans,
parfois, on se mélange dans les romans.
J'ai bien écrit ça, mais où ?
Oui.
Voilà. Et justement, un évêque de Cahors qui avait été destitué par le roi a décidé de rester en place.
Eh ben, c'est dans Brunelilda, ça.
Et le roi arrive et fait le ménage. Et il fait le ménage à la mode du temps, c'est d'ailleurs assez amusant. Voilà, mais je laisse les lecteurs découvrir de quelle façon on a puni.
Pour moi, j'imagine l'Inquisition, là, où ça ne doit pas être une manière très douce.
Beaucoup plus d'humour.
Ah, beaucoup plus d'humour.
Oui, pas mal de douleur, mais beaucoup plus d'humour.
Ah oui, d'accord. Bah, autant souffrir en rigolant, alors. Ça passe toujours plus vite.
Absolument.
Est-ce que ça vous dirait pas d'écrire un roman qui se passerait seulement sur Cahors ?
Alors, Cahors, peut-être pas. Disons plus proche de là où vous êtes.
Alors, l'Uzèche ?
Voilà.
Ça vous intéresse ?
Alors, je vais vous dire ce qui m'intéresse. Le monde gaulois. C'est vrai.
Oh bah là, alors c'est bon, là, on a compris. Là, ici,
vous avez compris.
Oui, il y a tout ce qu'il faut là. Dans ce musée, de toute façon, les gens peuvent venir effectivement le voir. Oui. Ouais.
Voilà, donc c'est vrai que le monde gaulois m'a toujours passionné. Je ne pense pas d'ailleurs qu'ils soient les seuls à avoir fait la France, même si nous sommes tous des Gaulois en puissance.
Réfractaires, dirait l'autre.
Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais peuple passionnant quand même. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai regretté la gallo-romanité.
Ouais.
Mais elle fait partie de l'histoire.
Très, très rapidement, alors, c'était une question que j'allais vous poser, mais là, je pense que vous avez répondu. L'époque, si vous deviez être dans l'histoire, si vous aviez une machine à remonter dans le temps, vous iriez où en premier ? Christian sourit, je pense qu'il a une petite idée, non ?
Ah oui, j'ai.
À l'époque de Brunelilda ?
Peut-être encore plus loin.
Ah ouais ?
Oui, peut-être encore plus loin et pas en France.
Ah ouais ?
Voilà, donc ça c'est mon sentiment personnel. J'aime beaucoup le Moyen-Orient, je m'intéresse beaucoup à l'Antiquité. Donc je pense que si j'avais une machine à remonter dans le temps, j'irais au Moyen-Orient. Et j'écrirai là-dessus, et j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus déjà, mais ce ne sont... Ah ben si, l'ADN d'un dieu. Voilà.
Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas résumer 18 romans comme ça, et bientôt 19, j'imagine, parce que vous n'êtes pas prêt de vous arrêter, c'est ce que j'ai compris. On peut conseiller, par exemple, l'ADN d'un dieu de Christine Machureau, Brunelilda, première reine de France, la gloire et le sang, il y a la mémoire froissée, c'est les livres qu'on m'a montrés, d'or, de sang et de soie, des romans historiques qui sont faits justement pour vous, et aux éditions, les éditions du 38, qui ne...
Toulousaine.
Qui sont toulousaines, alors que ça pourrait être...
Je précise, la saga des 5 volumes de la mémoire disponible. Exactement. À la médiathèque de l'Uzèche.
Et donc à la médiathèque de l'Uzèche. Merci Christine Machureau de nous avoir reçus.
Moi qui vous remercie.
Merci Christian Marin et merci au musée aussi de nous avoir reçus pour enregistrer cette émission. C'est la fin de ce magazine. Rendez-vous à 17h et 21h30 pour la rediffusion. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Et puis dans un instant, c'est le journal.